Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans sa peinture, comme dans ses livres, et à travers ses photographies, Bernard Dufour se sera toujours évertué à ne pas se censurer. Peintre du corps des femmes, qui disait lui-même que son œuvre, au caractère autobiographique très prononcé, s'était construite autour du sexe et de la mort, Bernard Dufour ouvrait en 2006, avec Emmanuel Laurentin, une semaine de la Nouvelle Fabrique de l'Histoire consacrée à la censure. Dans cette émission, c'était moins le pouvoir de coercition de l'État ou d'une quelconque autorité morale sur l'artiste ou l'écrivain qu'évoquait Bernard Dufour que la censure que n'importe quel groupe social ou n'importe quel individu était capable d'exercer, inconsciemment ou en toute conscience, par conformisme ou frilosité. Y compris l'artiste, l'auteur lui-même, quand il cède à l'autocensure, et aussi le spectateur, le lecteur, le critique de l'œuvre, qui voudrait ne pas avoir vu ce qu'il a vu, ne pas avoir lu ce qu'il a lu. À travers son expérience personnelle et des exemples choisis dans l'histoire, à 83 ans, Bernard Dufour disait comment s'exerçait ainsi la plus efficace et la plus définitive des censures. Celle à laquelle l'avait souvent confronté sa volonté farouche de figurer, d'écrire, de nommer, en s'approchant au plus près de la vérité qui s'imposait à lui. La Nouvelle Fabrique de l'Histoire, à propos de la censure avec Bernard Dufour, diffusée la première fois le 3 avril 2006 sur France Culture.
À Paris, je rejoins Martine. Je traverse au 87 de la rue de Reuilly le jardin que nous avons planté de bambous en 1981. J'enfonce la porte rouge sang de fer, clôture de la fabrique, qu'habitent aussi Paul Thévenin, Françoise Perrault et Denis Roche, Jacques Henric et Catherine Millet. J'avais connu, en novembre 1958, Martine Vatin à la fête donnée pour célébrer le prix Médicis, le premier à être attribué, de Claude Ollier, rencontré en août 1943 près de Nuremberg, sur un chemin de forêt où nous marchions, un dimanche, Rob Grillet et moi, tous trois étudiants STO en Allemagne. Paul, en 1954, probablement chez Pierre Loeb, Denis et Françoise en 68, Jacques avec Pierre Guyotat également en 68 et Catherine plus tard, en 1971, à l'exposition d'André Masson au MAM Paris. Au Pradier, acheté en 1962, je travaille depuis 1972, Martine m'y rejoint constamment, des amis y viennent souvent, néanmoins j'y vis seul délibérément. À la fabrique, le jardin m'y attache au Pradier, je passe sans sortir dans Paris, des journées entières comme Jacques, tous les deux, alors nous prenons le thé en causant. Après la sortie du film La Belle Noiseuse, nous avions ainsi causé devant un enregistreur pour un entretien destiné à Artpress. Je lui raconte que ma vieille peinture des années 50, abstraite, était obsédée de formes féminines. Seins, ventre, sexe, et personne ne les identifiant, ne les voyant, j'ai décidé brusquement, en 1959, de figurer ces formes de femmes non pas à travers des fantasmes conceptuels, mais à travers le réel de filles draguées dans les rues autour de mon atelier de la rue Turgot, où elles venaient se mettre nues. C'est signé donc Bernard Dufour dans un livre paru chez Christian Bourgois qui s'intitule « Au fur ». Bonjour Bernard Dufour.
Bonjour.
Alors, vous avez écrit cela, c'est une sorte de récit personnel, comme d'ailleurs tous vos livres qui peuvent s'intituler « L'Oranger des Osages », c'est chez Plon, ou « Le temps passe quand même », c'est également chez Christian Bourgois, ou plus récemment « La figure du sexe de Cro-Magnon à moi », c'est chez Fata Morgana. Ce sont des carnets, des récits personnels, une sorte de journal au jour le jour sur votre vie. Et vous pratiquez dans ce chapitre 2 de « Au fur », ce qu'on appelle aujourd'hui dans les milieux branchés le name dropping, vous lancez des noms comme cela, tout nom qui aujourd'hui pour n'importe quel auditeur de France Culture a un lien avec notre thème du jour, à savoir, et de la semaine, à savoir l'histoire de la censure. Vous y citez Catherine Millet, vous y citez également Pierre Guyotat ou encore Alain Robbe-Grillet, et également vous êtes peintre et écrivain, il faut le dire. Et vous avez eu à croiser, dans cette génération, je ne cacherai à personne que vous avez un peu plus de 80 ans, dans cette génération, vous avez eu à croiser à tout moment cette histoire de la censure, même si, de façon presque miraculeuse, vous y avez échappé vous-même, Bernard Dufour.
Oui, c'est vrai, mais les amis que vous venez de citer et moi-même, nous sommes en quelque sorte obsédés par notre propre vie et l'exposé de notre propre vie. Donc, très, très exposé à la censure. J'ai l'impression quelquefois que nous vivons, enfin que je vis dans une espèce de, dans une jungle d'interdits. Si je fais des photos, je ne peux pas les publier parce que c'est un droit à l'image. Si je photographie une maison, je ne peux pas la publier parce qu'il y a des droits d'auteur, d'architecte, etc., etc. Donc, j'ai peu à peu été très intéressé par le problème de la censure et de l'autocensure. Et en écrivant, quand j'ai écrit L'Oranger des Osages, qui était un récit de notre jeunesse, à Robe Grillet, Ollier et moi, c'est-à-dire notre jeunesse d'étudiants, de ce que nous étions, des milieux d'où nous venions.
Vous venez donc d'un milieu parisien, vous avez...
Oui, mon père, oui, on était tous les trois de milieu parisien, de la petite bourgeoisie, élevés par des pères qui avaient fait la guerre de 14, qui en étaient revenus très traumatisés, et donc aussi qui étaient des gens de... En tout cas, mon père, je peux parler des autres, étaient des gens de droite, lecteurs de l'Action française, et donc qui baignaient dans cette espèce d'antisémitisme de l'époque, comme ça. Bon.
Et vous-même, vous avez... Donc L'Oranger des Osages raconte cela. Vous avez, sans problème, d'une certaine façon, par rapport à d'autres jeunes de votre génération, rejoint l'Allemagne pour le STO, et c'est le cœur même de ces carnets qui sont intitulés « L'Oranger des Osages » aux éditions Plomb, Bernard Dufour.
Oui, c'est ça. Mais ce livre, j'ai eu beaucoup de mal à le publier. Parce que je racontais dans ce livre, d'une part, notre STO en Allemagne, à Robe Grillet, Ollier et moi, la façon dont nous y étions partis, la façon dont moi je n'étais pas entré en résistance, pourquoi, quel pouvait être notre milieu familial, politique, et comment nous réagissions à tout ça. Et en même temps, je racontais le suicide de ma femme, qui était une très jeune femme, qui s'est suicidée d'un coup de revolver dans la tête à 30 ans, 35 ans.
En 1953.
En 1953, comment je l'ai trouvée dans l'atelier. Ce qui s'en est suivi de ce suicide, c'est-à-dire elle s'est suicidée au mois de mai, dont les constats de police, les interrogatoires de police, la plainte contre X se déposer, l'été judiciaire, la convocation au juge de justice, le juge d'instruction, etc. Tout ça, donc, était extrêmement suspect. À la fois le STO, alors qu'on aurait dû être résistant, le suicide d'une femme dont on pouvait penser que j'avais assassiné. Donc tout ça, ce test suscitait le soupçon. C'était vraiment l'ère du soupçon. On se disait, mais que c'est ce type? Et j'ai proposé le manuscrit à deux éditeurs, dont je ne dirai pas les noms, qui étaient des très grands éditeurs d'avant-garde, enfin des célébrités de la littérature d'avant-garde, qui ont l'un et l'autre absolument refusé ce manuscrit, non pas en m'y opposant des raisons d'ordre esthétique, c'est-à-dire j'aurais très bien compris qu'on me dise, écoute, continue à faire de la peinture et ne nous emmerde pas avec ta littérature de merde. Bon, j'aurais admis ça. Mais on l'a refusé d'une part, l'un parce que je parlais du STO, et l'autre parce que je parlais du suicide de ma femme, et que on m'a dit, non, il vaut mieux garder des choses pas comme ça, il vaut mieux garder ça pour soi, ou pour ta famille, tes amis proches.
Ce qui est d'autant
ce
plus
m'avait absolument révolté.
Oui, ce qui est d'autant plus étrange dans une époque où le moi et l'intime est justement quelque chose qui est dévoilé sur la place publique, à la télévision, ou dans bien d'autres endroits, chacun vient révéler soit ses peines de cœur, soit ses peines de sexe. C'est étrange qu'on puisse refuser pour ce prétexte-là un texte comme L'Oranger des Osages, Bernard Dufour.
Mais il y a probablement une façon de le dire, vous comprenez, de dire dans un texte L'Oranger des Osages appartient à un milieu antisémite, nous étions tous antisémites avant la guerre, à travers l'Action française ou Candide. C'est inacceptable, personne ne dit des choses pareilles. On a attendu quand même, Robe Grillet, Ollier et moi, 40 ans avant de publier un livre sur le STO. Mmh. 40 ans, bon. Donc quand on dit qu'on peut parler n'importe quoi aujourd'hui, c'est totalement faux.
Mais alors, vous le jugez justement au regard de l'homme de un peu plus de 80 ans que vous êtes, Bernard
Dufour.
Non,
j'ai 84 ans.
Allez-y, dites-le, c'est bien, oui. Mais justement, vous le jugez du haut de ses 84 ans, Bernard Dufour,
du haut, non, pas du haut, mais à travers.
Ouais.
À travers.
Parce que vous avez connu d'autres types de censure, d'autres types de, d'autocensure, d'autres types de façons de retenir sa plume, de se contrôler, d'éviter de dire certaines choses?
Bon, il y a un problème. Quand j'ai écrit L'Oranger des Osages, naturellement, je suis un lecteur de Baudelaire, et particulièrement de Mon cœur mis à nu. Parce que Mon cœur mis à nu est un livre absolument, à proprement parler, totalement incorrect. Enfin, je veux dire, les femmes, ils sont traitées de la pire façon. Baudelaire est pour la peine de mort, il est contre la démocratie, etc. Et en lisant attentivement Mon cœur mis à nu, je trouve au paragraphe 83, la phrase suivante, « Belle conspiration à organiser pour l'extermination de la race juive. » Alors, ça fait un coup, parce que « belle », c'est vraiment le programme nazi, l'esthétisme, la conspiration, c'est-à-dire la conspiration, le secret, organiser l'organisation, l'extermination, hein, race avec un R majuscule, juive avec un J majuscule. Bon, et je me suis intéressé pour cette phrase à l'historique de la publication de ça. Baudelaire meurt en 1867. Mon cœur mis à nu, c'était le livre auquel il tenait le plus. Il faut lire les notes de la Pléiade. C'est le livre qui était son livre fondamental. Et il disait, j'envisage même de m'expatrier si la publication de ce livre entraînait pour moi des ennuis. C'est dire qu'il prévoyait. Et le livre est publié 20 ans après la mort de Baudelaire. Les lignes terribles que je viens de lire ne sont publiées, elles, dans une édition complète qu'en 1908.
Donc il y a...
C'est-à-dire que de 1865 à 87, il y a 22 années de non-publication, le livre est publié en 65. De 1887 à 1908, il y a 21 années d'édition censurée. C'est-à-dire que pendant 43 ans, cette phrase terrible n'a jamais été publiée. Elle n'est publiée qu'en 1908. Et ce qu'il y a d'étrange, qui me frappe encore plus, c'est que dans mon entourage littéraire, etc., quand je parlais de ça, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait lu cette phrase.
Oui, c'est-à-dire qu'il l'avait lu. Il l'avait lu, mais il ne l'avait pas entendu.
Voilà, il y avait à nouveau un problème de censure à l'inverse. C'est un phénomène très intéressant. On lit des choses et on ne veut pas les lire.
Ouais.
Donc, l'écrivain peut être, ou le peintre peut être victime d'une censure d'État, d'une censure d'éditeur ou de la censure du lecteur. C'est ça qui est formidable.
Et on entend ou on ne lit que ce qu'on veut bien lire.
On ne lit que ce qu'on veut bien lire. Et même, alors je suis très frappé par ça, on lit, il m'arrive de repenser à des lectures que j'ai faites, et par exemple, je lis Jean Genet, le journal du voleur. À un moment, il y parle de ses amis de la Gestapo, non pas de la Gestapo allemande, mais de la Gestapo française de la rue Lauriston. Et ils disent, il avait une passion pour ces gens-là, parce que pour lui, c'était le comble de l'homosexualité, le comble de la trahison,
du côté voyou, évidemment.
De tout. Bon, je lis ça, et il a une espèce de fascination, que je finis par me dire, des années, j'ai cru avoir lu la phrase suivante. Et si on me demande à moi si j'ai fait partie de la Gestapo, je ne vous répondrai pas. Vous me demandez. Je cite Genet. Genet. Et récemment, j'ai relu Genet, le journal du voleur, et je n'ai jamais retrouvé cette phrase.
C'est ce qu'il y a entre les lignes que vous avez lues.
Oui, c'est ça qui est très curieux. C'est ça qui est tellement curieux.
Alors, vous citez dans ce même Oranger des Osages, donc chez Plon, vous citez évidemment ce que vous venez de dire de Baudelaire, mais vous y parlez aussi de Zerf Sternel, et en particulier de la tentation du fascisme en France, donc de toute cette cohorte d'intellectuels, dites-vous, qui ont, à un moment ou à un autre, été fascinés par le fascisme, par le nazisme, par les régimes autoritaires dans les années 30. Et vous vous dites, mais c'est étrange, ce nombre-là, je ne l'avais pas moi-même perçu, alors que j'ai vécu cette période d'une certaine façon, Bernard Dufour.
Ce qui est formidable avec Zev Sternel, moi j'ai une immense admiration pour Zev Sternel, c'est que Zev Sternel a écrit le livre que nous aurions dû écrire en France, sur ce qui s'est passé réellement en France, politiquement, dans la tête de nous tous. Comment se fait-il que quand même, j'étais à l'Institut agronomique, on était 12 qui avions la classe 22, on était 12 à partir en Allemagne au STO.
Sans trop vous poser de questions, c'est cela que vous voulez
mais
dire.
Mais sans se poser de questions, la seule question qu'on se posait, c'était de savoir si on serait dans une usine d'armement ou si on serait dans une brasserie. Et le directeur de l'agro nous disait, vous serez dans une brasserie ou dans n'importe quelle usine agricole. Taratata, on est arrivé chez MAN. Bon.
MAN qui fabriquait des chars.
Des chars, des tigres. Bon. C'est ça qui est intéressant. Vous comprenez le problème de la censure, c'est une censure. C'est cette transformation de la vie française en dehors de. C'est pour ça que la citation de Baudelaire est tellement fascinante à mon avis. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que chaque fois que j'ai parlé de personne ne l'avait lu, sauf quand j'ai publié mon livre, Le Ranger des Osages, j'ai reçu une lettre de Claude Mauriac que je ne connaissais pas, qui disait bravo, c'est formidable que vous ayez cité cette phrase de Baudelaire.
Et pourquoi, justement, c'était formidable pour lui,
à ses yeux ? C'était formidable parce que ça établissait la vérité. Vous comprenez, Céline sert de bouc émissaire à toute la mauvaise conscience française.
Et là, il fallait remonter plus haut, il fallait remonter même avant ça, Léon Laudet. Même...
Oui, ça ne suffit pas de dire que les frères Goncourt avaient des propos antisémites. Je veux dire, parce que les propos antisémites des frères Goncourt... Bon, c'était innocent, enfin innocent, c'est jamais innocent, mais c'était une espèce de conformité mentale. Mais la phrase de Baudelaire, ça va beaucoup, beaucoup plus loin, c'est terrifiant.
Mais ce qui est intéressant dans cette phrase de Baudelaire, et dans sa suppression, et dans son rétablissement dans le texte de 1908, c'est justement ce jeu de bonneteau, Bernard Dufour, c'est-à-dire elle disparaît, elle réapparaît à un moment qui n'est d'ailleurs pas anodin, puisqu'effectivement, en 1908, l'affaire Dreyfus juste de se terminer.
Voilà, d'une certaine exactement. Façon. L'affaire Dreyfus se termine en 1906.
Oui, nous sommes dans le centenaire de la réhabilitation de Dreyfus.
Dès que Zola est réhabilité et que Zola est enterré au Panthéon, hop, on sort la phrase de Baudelaire, qui disparaît à nouveau.
Qui disparaît dans les imaginaires, enfin dans l'imaginaire des lecteurs.
Que les gens ne lisent plus, ne veulent pas lire, ne veulent pas voir.
Vous êtes de cette génération, donc vous l'avez dit, avec Rob Grillet ou avec Claude Ollier, à vous retrouver en Allemagne au STO, alors que vous êtes étudiant en agro. Vous vous retrouvez aussi dans le Nuremberg de la fin de la guerre, Bernard Dufour, ce Nuremberg qui est aussi un symbole, on peut le dire.
Non, je ne suis pas retrouvé à Nuremberg, mais on ne va pas raconter ça maintenant, parce que j'ai eu une autre vie, j'ai changé d'usine, j'ai été dans une autre usine, envoyé dans une usine de laine de verre pendant un an. Et un jour, en lisant une petite annonce dans un journal, j'ai vu que la fondation Alexander von Humboldt proposait deux bourses à des étudiants étrangers. Donc j'étais avec un copain, on a écrit à la fondation, à Berlin, et on nous a donné la bourse pour une raison extrêmement... Ce qui est irracontable, vous comprenez, parce qu'on ne peut pas croire que ce soit possible. Simplement, on nous a donné la bourse parce qu'il n'y avait que deux rigolos comme mon copain et moi pour penser que dans l'hiver 44, on allait attribuer une bourse à deux types qui travaillaient dans une usine d'armement pour aller de Landé dans une université. Mais effectivement, on a passé le dernier hiver de guerre à l'université de Heidelberg et moi, j'en ai profité pour lire tout ce que je n'avais jamais lu, c'est-à-dire les manifestes du surréalisme, Mallarmé, Journal de Delacroix, et c'est comme ça que je suis devenu peintre.
Alors quand vous, justement, lisez ces textes dans la bibliothèque de Heidelberg, vous y découvrez évidemment Breton, les surréalistes, qui, on peut le dire, ont eu maille à partir avec cette question de la censure. Et pourtant, pour vous, Breton, ça n'est pas celui qui va le plus loin, c'est celui qui a un trop bon ton, dites-vous, dans certains de vos textes, par rapport à celui qui mérite, ou qui du moins ne peut qu'avoir maille à partir avec la censure, à savoir Antonin Artaud. Ils ne se sont jamais aimés, dites-vous.
Bon, Breton était venu à la fin du 15 août chez moi, dans l'Aveyron, là, depuis Saint-Cyr-Papier, on avait déjeuné ensemble. Je l'avais fait parler d'Antonin Artaud. Il était seul avec moi, j'étais pas du tout surréaliste, donc il y avait personne pour le contrôler. Et pendant tout le voyage, il m'a dit combien il avait horreur, combien il se méfiait d'Artaud, combien il trouvait Artaud excessif, en un mot, il avait horreur de la folie. Bon. Un mois plus tard, il est mort, Breton. Le langage, la prudence de Breton m'a toujours semblé absolument parotistique. Il y a un texte qui rend très bien compte de ça, c'est l'enquête sur la sexualité. Vous savez, dans la revue surréaliste, Bon, Breton, il y en a que deux qui sont absolument merveilleux, ceux qui disent absolument, l'un qui bande à peine, c'est Aragon, et puis l'autre, je ne me rappelle plus lequel c'est. Enfin, ils sont deux, alors que Breton a un discours sexuel complètement convenu. Or, la censure de la sexualité était quelque chose à cette époque-là d'absolument inouï. Moi, je voudrais, si vous permettez,
allez-y,
lire un passage de très court, c'est très court, de Sartre, La Nausée. La Nausée, le personnage principal est Roquentin. Le livre a été publié en 1938. Et dans la version qu'on trouve partout, on lit ceci. Roquentin se balade dans la rue à un moment, il achète un journal, il lit un fait divers, et c'est le meurtre d'une très 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 jeune fille, le meurtre et le viol d'une très jeune fille. Il lit ce journal, et il se met à bander, et à s'exciter, il devient complètement excité. Et il écrit dans la version éditée, « J'ai le droit d'exister, dont j'ai le droit de ne pas penser. » Le doigt se lève. Est-ce que je vais caresser dans l'épanouissement des draps blancs la chair blanche épanouie qui retombe douce, toucher les moiteurs fleuries des aisselles, les élixirs et les liqueurs et les florescences de la chair? Bon, y a des petites notes, il y a des petites lettres dans l'édition de la Pléiade. Moi, je vais toujours regarder. Et quand je vois ces mots, le doigt caresser, toucher, je me dis... Où est la variante dont je regarde à la fin dans la Pléiade et je trouve ça. Le texte du manuscrit, c'est « J'ai le droit d'exister, dont j'ai le droit de ne pas penser. » La verge se lève au lieu du doigt. Et là, un passage qui est complètement supprimé. « La verge se lève et crève la vulve rouge comme la Légion d'honneur. Je bande, je vais baiser, baiser. » Dans l'épanouissement des draps blancs, la chair blanche épanouie qui retombe, baiser les moiteurs fleuries. Alors, ça n'a strictement aucun rapport avec le texte publié. Et c'est Gallimard, et Paulhan, et Brice Parrain qui ont exigé ces modifications sous peine de non-publication.
Et alors pour vous, c'est symptomatique, Bernard Dufour, quand on vous lit, évidemment, on s'aperçoit que vous n'avez pas ce type de pudeur d'éditeur, en tous les cas. C'est symptomatique d'une époque, d'un moment, d'une volonté de ne pas dire, justement, et en particulier de ne pas parler ni de la bandaison, comme vous le dites, ni de la vulve de la femme, la vulve ouverte, sur laquelle on reviendra peut-être un peu plus tard dans notre conversation, Bernard Dufour.
Oui, mais c'est d'autant plus étonnant de la part de Sartre. Moi, ce que je trouve complètement fascinant, c'est que quelqu'un comme Sartre ait accepté de censurer ça. Et enfin, vous comprenez bien ce qu'il raconte, il crève la vulve rouge comme la Légion d'honneur, je bande, je vais baiser. Il n'y a pas quoi faire un palace. Hein. Bon, mais dans dans l'écriture de Sartre, je trouve que ça a une violence. Il n'y a pas une virgule, il y a même plus. C'est une phrase sans aucune ponctuation, sans majuscule, etc. Et ça devient ensuite, sur l'insistance de Gallimard, une espèce de littérature idiote, le doigt se lève, caressé, douce et tout. Or, je trouve inquiétant que quelqu'un comme Sartre soit soumis à ça, parce que Sartre, quand même, va produire ensuite ses principales œuvres en pleine occupation.
Et alors
Alors, écoutez, si en 1938, il accepte de son éditeur Gallimard, parce qu'il a la trouille de ne pas être publié, s'il accepte d'une telle censure, c'est inquiétant pour le reste. Et d'autant plus que Gallimard demande la censure, l'auto-censure, en 1938. Et en 1940, quand les Allemands entrent à Paris, Gallimard réunit ses écrivains et leur dit, écoutez, pour ne pas emmerder le cher lieutenant Heller et lui donner du boulot à censurer nos textes, je vous demande de les auto-censurer. Donc, c'est une espèce de manie chez cet éditeur de Or, on parlait de Breton tout à l'heure, la componction et
le bon ton, la prudence.
Le bon ton de Breton, etc., correspond absolument au bon ton de Gallimard, demandant à Sartre de s'autocensurer.
Alors, mais on voit bien autour de vous que vous n'avez pas des gens qui s'autocensurent. Quand on reprend le texte que j'ai lu en ouverture, on entend les noms de Paul Thévenin, de Françoise Perrault, de Denis Roche, de Jacques Henrique, de Catherine Millet, de Claude Ollier. On entend les noms de Pierre Guyotat. Ça veut dire qu'il y avait aussi un milieu qui... considérer que cette liberté de ton, mettons après la Seconde Guerre mondiale, une fois que vous êtes revenu d'Allemagne, Bernard Dufour, cette liberté de ton était indispensable à la société française de ces années-là ?
Bah, probablement.
Et vous y participiez à ce milieu, c'était quelque chose qui vous paraissait une volonté farouche d'affirmer la liberté. C'était quoi? C'était la liberté? C'était une volonté de choquer? C'était quoi?
C'était pas du tout la volonté de choquer, mais quand j'ai quitté la peinture abstraite et je suis devenu peintre dans les années 1960. Et j'ai commencé par draguer des filles dans la rue que je faisais poser pour apprendre comment c'était, etc. Et très rapidement, j'ai décidé de faire poser Martine comme ça. Et je me suis rendu compte que les filles que je draguais dans la rue, je leur faisais prendre des poses tout à fait prudes, enfin bon, normales, n'importe quel modèle, couché, debout, patati patalo. Mais Martine, à travers des
photos... Martine, votre compagne, non ?
Martine, ma femme, et la femme que j'ai aimée pendant 36 ans, enfin la femme que j'ai aimée vraiment... je lui faisais prendre des poses extrêmement sexuelles et extrêmement obscènes. Parce que j'avais une espèce d'instinct là-dessus, que du moment que je l'aimais, je n'avais aucune obligation, enfin je désirais vraiment que son sexe soit comme sa bouche, comme ses yeux, fasse partie de son corps, fasse partie de ce qui m'intéressait vitalement en elle. Bon. Et je me suis rendu compte rapidement que cette pratique était assez scandaleuse. J'ai fait en 1978 une exposition chez Pierre Naon à la galerie Beaubourg. C'était la première exposition que je faisais chez lui, que j'appelais « Hommes et femmes ». Et j'avais fait ça dans mon atelier l'été à la campagne. Et j'avais monté, persuadé Martine, on avait posé des poses érotiques, enfin des poses, on faisait l'amour, on se photographiait, je la photographiais avec un, et je me photographiais en même temps avec un reflet autoretardateur. J'ai fait une série de tableaux comme ça, de poses, pas érotiques, je déteste le mot, mais on faisait l'amour, bon. Et quand ces tableaux ont été exposés chez Pierre Naon, ça a été un scandale horrible parmi les amis de Martine et de moi, parmi nos collectionneurs, parmi tous les gens que nous fréquentons, qui étaient nos amis, parce qu'on avait l'habitude, et c'est là le grand problème de la peinture, on a l'habitude de voir, quand on voit un homme nu et une femme nue sur un tableau, des modèles prostitutionnels.
Or là, vous étiez nommé,
or là,
on vous reconnaissait.
On nous reconnaissait, et ce n'était pas des modèles producteurs, c'était pas Tartuffe, c'était Bernard et Martine.
Me permettez-vous, Bernard Dufour, de lire un extrait, justement, un autre extrait de Hofur, dans lequel vous évoquez justement cette exposition
oui,
chez
oui,
les Naons.
Oui.
Les documents de hommes et femmes, photos des peintures et textes sont envoyés du Pradier à Paris le 25 septembre. Pierre Naon fait le catalogue, page 2, sexe de femme numéro 1. M au peignoir écarté, étude pour le tableau HM75, rappelez-vous cette douceur du derrière du sexe, du sein et la masse des cheveux. Page 6, homme et femme, dessin. Page 7, homme et femme numéro 2, ma bouche sur les lèvres du sexe de Martine qui enfonce ma tête, de sa main, mon corps, des jambes, la mienne droite pliée et dressée. Page 8 et 9, homme et femme debout face à face, dessin. Page 10, homme allongé sur le côté numéro 3. Au jardin, après avoir fait l'amour, comme il est étrange qu'aucun peintre avant moi n'ait raconté cette histoire-là d'amant. Il est étrange qu'un homme et une femme soient toujours nommés Adam et Ève, trois femmes nulles et grasses, ou le jugement de Paris, quatre ou cinq femmes nulles et sorcières. Il est étrange que, surtout depuis le XIXe siècle, les peintres aient aimé peindre non pas eux-mêmes et leurs amantes et leur corps, mais leur petite famille, la jeune fille au piano avec maman, les petits frères au domino, les tantes, le chien... Un seul s'est peint se rafraîchissant le sexe dans une cuvette après avoir joui de sa femme et l'avoir fait jouir, tant elle est lasse. Picasso, Malevitch, Autodix, Matisse, De Koninck, non, Bonnard, pour qui il est si nécessaire de peindre l'amour. Bernard Dufour.
Je suis très content que vous ayez lu ce texte, en particulier en finissant sur Bonnard, parce qu'effectivement, Bonnard est le seul peintre qui se soit peint, comme je l'ai fait, moi aussi. Sans connaître ces tableaux de Bonnard à l'époque d'ailleurs. L'intimité d'un couple, ce que je disais tout à l'heure, j'avais envie de peindre le sexe de Martine parce que ça faisait partie de ma vie la plus fondamentale, la plus secrète et la plus essentielle en même temps. Et alors pourquoi ne pas peindre ça?
Et ça, alors, ça, si vous ne l'aviez pas peint, vous seriez d'une certaine façon auto-censuré, Bernard Dufour?
Oui, probablement. Mais alors, je me suis beaucoup intéressé à ce problème et récemment, j'ai écrit ce livre de Cro-Magnon, La figure du sexe de Cro-Magnon à moi. Parce que je me disais, bon, j'ai peint le 7 de Martine, Bonnard appelle ça le 7 de Marthe, et c'est peint en train de se laver la queue dans une petite cuvette. Mais qu'est-ce qui se passe dans les musées? Comment c'est? Alors j'ai visité le Louvre en cherchant le 7 d'une femme. J'en ai trouvé un seul dans un tableau de l'école française du 17e, où une nymphe est légèrement assise plutôt sur la fesse gauche que sur les deux fesses et relève les cuisses. Donc on devine légèrement les grandes lèvres. Bon, et ce problème m'a énormément intéressé. Je lui ai dit, mais pourquoi y a-t-il cette... Comment ça se passe dans la peinture?
C'est ça l'interdit pour vous, c'est ça?
Et alors, oui, parce que... Non, attendez. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà pour les musées, voilà pour toute notre peinture. Mais qu'est-ce qui s'est passé autrefois dans la peinture des grottes? Alors j'ai regardé, et je me suis rendu compte que dans les grottes, il y avait énormément... Énormément, non. Il y avait quelques dessins d'hommes et quelques dessins de femmes. Et que tous les sets des hommes, ils étaient presque toujours en état d'érection, et toutes les femmes avaient une vulve énorme et bâillant largement. Bon. Mais les têtes de tous ces hommes et de ces femmes étaient totalement, ou ces personnages étaient acéphales, ou bien réduites à une caricature ou simplement à une boule.
Vous dites des hommes schématiques ou acéphales.
Voilà. Il n'y avait aucune identification possible. Donc, il y avait un problème à ce moment-là. Il y avait une loi, il y avait un tabou qui disait on doit peindre les hommes et les femmes, les hommes en état d'érection, les femmes la vulve ouverte, mais pas les têtes. Bon, alors je reste dans la peinture occidentale uniquement. Bon, arrive ensuite toute la peinture jusqu'au XVIe siècle, totalement anonyme, archétypale, etc., non identifiée. Arrive Masaccio et il peint à Florence, dans la chapelle, Brancacci, Oltrarno, il peint toute la ville de Florence, avec aux fenêtres des gens qui sont des portraits, de véritables portraits identifiables, et à l'entrée, il y a une peinture qui représente Adam et Ève sortant du paradis.
Et Adam, on les voit pour exprimer, pour rappeler l'image à nos auditeurs à la radio. Donc, on les voit, c'est une image très connue, sortant d'une porte.
Voilà.
Donc, nus tous les deux. Mais
voilà.
Il y a l'homme, Adam, qui baisse la tête en se cachant les yeux. La femme lève les yeux au ciel, mais se couvre les seins d'un côté et se couvre le sexe de l'autre.
Voilà. Exact. Très bonne description. Ils sortent du jardin du paradis terrestre. Bon, ils sont poursuivis. Mais ce qu'il y a de tout à fait étonnant, c'est que l'un et l'autre sont parfaitement identifiables. À l'époque, on devait pouvoir dire c'est Madame une telle et c'est Monsieur un tel. C'était des amis de Masaccio, comme toutes les peintures de la chapelle, comme tous les personnages de la chapelle. Donc, il s'établit à ce moment-là un nouvel ordre, un nouveau tabou, qui va subsister pendant toute l'histoire moderne de la peinture, jusqu'à nos jours, à quelques exceptions près, qui est si... On représente des hommes et des hommes nus et des femmes nues. L'homme doit être ne doit pas bander. Le dessin de Masaccio est d'une merveilleuse exactitude anatomique, hein, c'est pas un gribouillis, mais il ne bande pas. Et la femme doit avoir juste la toison, pas plus. Par contre, on a absolument pas le droit, on doit même les montrer de manière identifiable. C'est-à-dire qu'il y a eu une loi pendant un interdit, mais comme il y en a peu dans l'histoire de l'homme, qui a duré de 35 000 ans avant nous, et puis de 2000 depuis, ça fait au moins 37 à 40 000 ans, c'est-à-dire une interdiction absolue de figurer un homme et une femme reconnaissables, identifiables comme individus, avec leurs appareils sexuels en état d'érection ou d'ouverture. Et c'est un tabou que je trouve tout à fait extraordinaire.
Alors c'était ce tabou donc ancien, et puis il y a ce tabou moderne, décrivez-vous dans La figure du sexe de Cro-Magnon à moi. Et vous reprenez même d'ailleurs un tableau absolument célèbre depuis peu de temps, d'ailleurs il faut bien le dire, dans l'histoire de l'art occidental, à savoir L'origine du monde de Courbet, et vous montrez qu'il est encore dans cette filiation, c'est-à-dire qu'on y voit certes le sexe ouvert, la toison, mais on ne voit pas la figure de la femme en question, c'est-à-dire qu'il y a toujours un interdit de représentation de la femme donc, qu'on peut reconnaître et de son sexe ouvert.
Voilà, et probablement la femme aimée, parce que des historiens disent que c'est la belle Hélène, la belle rousse irlandaise. Bon, et là, il y a le vieil interdit de néolithique. On peut montrer le sexe ouvert, mais on ne montre pas la tête. Il y a comme, je ne sais pas, comme une espèce de superstition.
Mais alors, Bernard Dufour, quand vous demandez à Martine, donc votre femme aimée pendant 36 ans, dites-vous, de se montrer justement et de la peindre, donc à la fois avec le sexe ouvert et le visage, vous avez l'impression à ce moment-là de transgresser, d'être un transgresseur et donc d'aller au-delà de ce que peut accepter une censure. Et pourtant, vous n'êtes pas censuré, Bernard Dufour, mais vos amis, qui sont les regardeurs, ne supporte pas de vous voir comme cela.
Je ne suis pas censuré par l'État. Personne n'a saisi mes tableaux et on ne m'a pas encore mis en prison. Bon, j'ai fait une exposition après la mort de Martine à la Galerie Beaubourg de Le Marié, et avec ces tableaux, ça a été totalement rejeté. J'ai perdu tout contact avec tous mes collectionneurs après cette exposition.
Et pourquoi ?
Parce qu'il y avait, je violais l'interdit. Ne pas montrer le sexe en fonction de la femme aimée.
Et cela, pour vous, c'est l'interdit suprême dans notre société ? C'est-à-dire, c'est cela au-delà duquel on ne pourrait pas aller, alors que par ailleurs, cinéma, il a la représentation pornographique
en
permanence.
Oui, mais au cinéma et dans ce qu'on appelle les productions érotiques ou pornographiques, la grande différence, c'est que les modèles, les gens dont on voit le sexe, sont des modèles payés, prostitutionnels, et ou dans lesquels la relation amoureuse n'est pas engagée. C'est de la fiction totale. Toute la production érotique, tous les films érotiques, toutes les images, toutes les photos érotiques, pornographiques, moi, je ne récuse absolument pas le caractère pornographique de mon travail, ce n'est pas le problème. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le problème érotique, qu'on se branle devant mes tableaux ou pas, je m'en fous complètement. Mais la grande différence, c'est que la soi-disant liberté de représentation sexuelle qui fonctionne à la télévision, dans les films, etc., c'est que tout ça est de la production avec des modèles prostitutionnels, payés.
Et alors,
c'est très très important.
Et quand on est dans le domaine de l'art, vous voulez dire qu'on est ailleurs, on est en dehors de ce modèle prostitutionnel, et que lorsqu'on dit je montre la femme aimée, eh bien c'est irregardable pour la plupart des regardeurs, dites-vous, Bernard Dufour.
Oui, c'est irregardable parce qu'il y a un effet miroir qui se produit à ce moment-là, et les gens, le spectateur, le regardeur du tableau, se dit si c'est elle, c'est moi, ou si c'est lui, c'est moi. Et donc c'est quelque chose d'insupportable.
Mais Bernard Dufour, si vous dites je ne supporte pas l'expression érotique, vous acceptez l'expression obscène, par exemple, pour votre travail ?
Oui, je vous dis que je ne refuse absolument pas l'idée de le mot pornographique. D'ailleurs, Guyotat, dont vous parliez tout à l'heure, j'avais fait une sérigraphie avec lui. Je lui avais demandé de porter des inscriptions sur des dessins, et il avait porté cette définition que je trouve absolument formidable. Pornographie égale inscription du nu.
Oui, alors justement, puisque vous évoquez le nom de Guyotin, et puisque on a évoqué d'autres noms, comme ceux de Catherine Millet ou de bien d'autres que vous avez pu croiser, eux, ils ont eu, si vous n'avez pas eu affaire avec la censure, Guyotin, il a eu affaire avec la censure. Alors, ça n'était pas simplement la censure du regardeur, c'était aussi une institution, la volonté d'interdire à un moment. Et puis, si nous avons programmé cette semaine à ce moment-là, c'est parce que c'est le 40e anniversaire de l'interdiction du film de Rivette, la religieuse, donc qui n'avait rien d'un film pornographique, il faut bien le dire, en 1966, et qui a été interdit pendant une assez longue durée. Nous aurons d'ailleurs mercredi prochain un documentaire sur ce thème en rediffusion. Mais vous avez travaillé aussi avec Rivette pour le film La Belle Noiseuse, pour les auditeurs, ce que peint Piccoli, c'est ce que vous peignez, Bernard Dufour. Donc vous avez croisé à un moment ou à un autre des itinéraires de censurer, Bernard Dufour.
Oui, c'est vrai. Il faut bien dire que le film de Rivette, c'est un film extraordinaire, troublant et sexuellement bouleversant. Mm-hmm. Hein. Je comprends qu'il y ait une censure contre ce film. Le problème de la censure, c'est pas tellement... Je pense vraiment que le problème de la censure, c'est pas très grave. Il faut faire absolument comme s'il n'y avait pas de censure. Ce qu'on très bien fait, et il faut trouver des moyens de lutter contre cette censure. Vous parliez de Guyotat tout à l'heure, il était chez moi pendant les périodes de difficultés d'édition d'Eden, Eden, Eden. Et le livre, Guyotat est un combattant fantastique. Et donc il a décidé de combattre. Et il a réussi, il a publié ce livre parce qu'il a su trouver un triumvirat extrêmement puissant qui a interdit l'interdiction. C'est-à-dire Barthes, Solers et Léris.
Mais vous donnez l'impression de considérer que tout compte fait la censure, c'est logique, c'est le corps social qui se défend, une certaine vision du corps social qui se défend. Vous n'avez pas l'air de critiquer en soi l'institution de la censure.
Parce que la censure est une émanation de la société, et que c'est une règle de la société. Et je pense que je ne pense pas que ce soit aux artistes de se battre contre la censure. Le véritable combat d'un artiste, il est d'un écrivain, d'un peintre, il est contre l'autocensure pour une bonne raison. Quand un texte est censuré, si le Guyotard n'avait pas été édité, le manuscrit n'était pas détruit.
Il existait tout de même.
Il existait. Et il n'est pas de. Il existait, il aurait été publié un jour, nécessairement.
Comme Baudelaire, pour Mon cœur mis à nu.
Comme Baudelaire, comme les Sade, comme tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de destruction. La censure interdit un moment, mais ne détruit pas. Tandis que l'autocensure. Elle détruit complètement. Le manuscrit de que je disais tout à l'heure, le manuscrit de le passage de Sartre de la nausée, le manuscrit subsiste. Mais si Sartre avait tapé sur des appareils, des ordinateurs, il aurait fait un copier-coller ou je ne sais pas quoi, et le manuscrit aurait disparu. C'est-à-dire, la censure n'est pas en soi dangereuse, la censure est désagréable, parce qu'elle suspend une publication. Mais elle ne détruit pas. Par contre, il y a une censure qui est extrême, alors qui est absolument assassine, c'est la censure faite par les familles, sur les écrits intimes ou sur les œuvres. Parce que les familles considèrent toujours leurs chers parents comme un criminel.
Oui, comme un saint et ne veulent pas voir justement la face sombre du personnage.
Exactement. Et donc ils détruisent eux. La censure n'a rien d'irrémédiable en soi.
Alors, il y a d'autres moments tout de même où vous vous êtes trouvé confronté à cette question de la censure ou du moins du regard porté sur votre œuvre. Est-ce que vous pouvez nous parler de 1975, Bernard Dufour, le Holger Mainz, et raconter cette histoire?
Le Holger Mainz, je l'ai peint à la suite d'une question d'Alain Jouffroy, qui est un grand ami, et qui avait décidé d'interroger quelques-uns de ses amis peintres. Sur ce que pouvait bien être pour eux la nouvelle peinture d'histoire. C'était ça le problème. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle peinture d'histoire? Et donc, ils m'avaient posé ce problème. Et moi, j'avais considéré à l'époque que ce qui était intéressant dans l'histoire de l'époque, en 72, c'était le terrorisme de la bande à Bader.
Donc, rappelons-le pour les auditeurs qui
de la bande à Bader,
c'est donc la première moitié des années 70, après 1968, un groupe très, très peu nombreux, mais très actif, effectivement, qui, à l'intérieur de la République fédérale d'Allemagne, donc, commet des enlèvements ou également
des meurtres,
donc, en particulier contre des personnalités du patronat ou représentant, donc, la société, la upper class allemande de l'époque, on peut le dire.
Qui a été repris en France, d'ailleurs, par des gens qui sont toujours en prison actuellement.
Action directe.
Voilà. Donc je parle de ça un jour à Christian Bourgois, et Christian Bourgois me dit « Ah ben, si ça t'intéresse, j'ai une photo du corps d'Holger Mainz. » Holger Mainz était un des membres de la bande à Bader, et il faut dire que les Allemands avaient monté contre les terroristes de la bande à Bader un système d'emprisonnement d'une cruauté absolument inouïe, enfin digne, de Guantanamo. Les types étaient enfermés dans des cellules, dans des conditions monstrueuses, etc. Et donc, Holger Mainz avait fait entamer une grève de la faim, il en était mort, et donc son corps avait été autopsié. Et Christian Bourgois me donne cette photo. Et je décide de faire un grand tableau là-dessus, parce que je considère que ce problème du terrorisme en 72-75 était vraiment beaucoup plus important, même que les histoires de prison traitées par Fromanger, que c'était vraiment le nœud de l'époque. Et à ce moment-là, Martine était aussi une militante d'extrême-gauche, comme ça, de la gauche prolétarienne, etc. etc. Et ça m'intéressait de consacrer ce tableau à Holger Mainz, et en même temps à Martine, qui était comme une sœur d'Holger Mainz, comme une alliée, quoi, une complice. Et de mêler les deux. Et ce qui m'intéressait, comme ma vie amoureuse avec Martine allait mal, j'avais été intéressé par le fait, cette découverte, que dans la vie amoureuse ou dans la vie humaine, il arrive des moments où la vie du sexe est complètement paralysée et devient uniquement excrémentielle. Le sexe est réduit à une fonction excrémentielle. Ce qui était le cas dans ma liaison avec Martine, ce qui était le cas du malheureux Igor Mainz, dont la photo du sexe était un malheureux truc tout noir et tout rabougri. Et donc je fais un grand tableau avec le corps d'Igor Mainz au milieu. À droite, un bourreau, copié sur Signorelli d'ailleurs, qui le torture. À gauche, un portrait de Martine. Et quand j'ai fait ce tableau, je me suis dit que ce tableau avait quelque chose de christique qui m'était insupportable. Et Martine, bien que je ne vivais pas à l'époque ensemble, était venue me voir un dimanche au Pradier. Et je lui avais parlé de ce tableau et je lui avais dit, voilà, je voudrais raconter l'histoire d'une vie amoureuse devenue excrémentielle. Et je voudrais bien que tu ailles au jardin et que tu chies. Et quand tu auras chié, quand tu seras prêt, tu me le diras, on ira faire des photos de toi nu en train de chier. Et ça l'avait enthousiasmé, cette idée. Dans son univers militant, politique, elle trouvait une signification à ça, en dehors de toute histoire de provocation ou de
oui, parce obscénité. qu'on pourrait penser effectivement qu'il n'y a que de la provocation.
Non, c'est absolument pas vrai. Il y avait là une conjonction formidable entre deux moments et la réduction de la vie sexuelle extrêmement.
C'est pourtant ce qu'on a vu ou ce qu'on a voulu voir dans ce tableau, en l'occurrence Bernard Dufour.
Ben oui, parce que ça n'arrange pas les gens et ce tableau a toujours beaucoup de difficultés à être vu comme ça.
Alors, c'était une époque, vous l'avez dit, où vous n'étiez pas vraiment militant, mais où en même temps que...
Non, moi, je n'étais pas militant parce que je suis très sceptique.
Du tout, mais néanmoins, en même temps, avec Denis Roche, qui avait été lui-même exclu du groupe tel quel, vous évoquiez
mais
le milieu...
Denis était un grand sceptique aussi.
Vous évoquiez ce groupe donc de maoïstes avec Martine. Vous avez vous-même produit de la littérature contestataire. Alors, si vous n'avez pas été censuré... Donc pour vos œuvres, pour des raisons de mœurs, pourrait-on dire. Est-ce que vous avez eu la chance ou la malchance de connaître la censure politique? Même pas, Bernard Dufour, quand vous avez fait littérature ou éloge de la véhémence avec Denis Roche, il n'y a pas de censure non plus.
Non, là, il n'y a pas de censure. Mais par contre, mon tableau Holger Mainz, j'avais proposé à Pontus Ultène de le donner au Centre Pompidou. Pontus Ultène, qui était alors conservateur, était tout à fait d'accord et ce tableau a été refusé. Et depuis, Strasbourg va... J'offre ce tableau au musée de Strasbourg, mais je ne sais pas quand... En vérité, je ne sais pas quand ce tableau sera exposé.
Oui, on verra, on va poser la question au conservateur du musée de Strasbourg.
Ce tableau pose des problèmes.
Quand on vous lit, et quand on lit en particulier certains de vos ouvrages sur lesquels vous revenez sur les personnages qui vous servent un peu de boussole à un moment, vous citez Picabia et Duchamp dans les années de la Première Guerre mondiale, parce qu'ils ont déserté, dites-vous. Vous citez Céline et Genet d'un autre côté. Et vous parlez de l'inconvenance suprême. Pour vous, c'est cela aussi, cette liberté que vous revendiquez, Bernard Dufour, de pouvoir ne pas vous auto-censurer, c'est-à-dire d'avoir une inconvenance suprême?
Oui, absolument. Au nom de mon travail autobiographique, intime, pourquoi ne pas montrer ça? Quel est l'interdit qui me frappe, moi? Pourquoi? Je refuse absolument cet interdit.
Vous refusez qu'on vous interdise
ou... Je veux bien qu'on m'interdise, mais je refuse d'en tenir compte, donc je le fais.
Quitte à ce que ça ne soit pas montré, d'une certaine
façon. Quitte à ce que ça ne soit pas montré, et que les tableaux que j'avais exposés en 1978 chez Naon provoquent un tel gêne chez les spectateurs qu'aucun ne soit acheté.
Et vous les avez toujours avec vous?
Oui.
C'est-à-dire que personne n'a voulu les acheter, même 25 ou 30 ans plus tard?
Non, j'ai pratiquement tous les tableaux.
Et alors quand...
De même les tableaux de Martine.
Et quand vous écrivez, vous couchez sur la page blanche ce que vous avez voulu faire sur un tableau de toile de jute, par exemple, c'est lu cela, c'est-à-dire quand on vous lit Le Ranger des Osages ou Au Fur ou encore Le Temps passe quand même chez Christian Bourgois ou plus récemment La figure du sexe de Cro-Magnon à un mois. On vous lit, vous avez l'impression d'être entendu ou lu, alors qu'on ne voit pas ce que vous voulez montrer, Bernard Dufour?
Je ne sais pas vous répondre, là.
C'est-à-dire que vous avez des retours sur cette écriture, où vous racontez ce que vous avez mis sur le tableau, d'une certaine façon.
Ben oui, il y a quand même quelques personnes que ça excite.
Et qui vous le disent.
Et qui me le disent. Ben, vous, par exemple, en m'invitant, Bruno Roy en méditant, Strasbourg en m'invitant à exposer chez eux, Daon, etc. Quand même, c'est très réduit, hein. C'est réduit à très peu de gens.
Mais pourtant, on a l'impression à la fois qu'aujourd'hui, Bernard Dufour, le domaine de la liberté de se produire, de dire des choses, d'écrire ou de peindre des choses, est de plus en plus large et vous donnez l'impression qu'il l'est certes, mais qu'au bout du compte, ça ne passe pas. Il y a quelque chose qui ne passe toujours pas dans la société, qu'on n'entend pas, qu'on ne veut pas voir. Il y a toujours cette censure intime vis-à-vis de certains sujets qu'on ne veut pas
entendre.
Écoutez,
j'ai une admiration très grande pour Catherine Millet. Non pas parce que je suis un très vieil ami de Catherine, avec qui je n'ai jamais eu aucun rapport sexuel. Je le dis tout de suite, elle le dit elle aussi, donc je le dis aussi. Nous n'avons jamais rien fait ensemble. Mais j'ai une admiration énorme pour son livre. Mais Catherine a respecté une loi. Elle n'a publié aucun des noms de ses partenaires. Et elle rapporte une conversation qu'elle a eue avec moi chez moi au Pradier, mais elle ne cite ni le Pradier, ni moi, ni mon nom. C'est-à-dire qu'elle a tourné un peu la difficulté de la censure en ne publiant pas les noms. Chose que ne fait pas Christine Angot.
Oui.
C'est le problème toujours, comme ça. C'est toujours le problème, c'est toujours le tabou. Le tabou mis en place il y a 35 000 ans.
Le tabou, c'est de reconnaître, c'est cela ?
Ne pas faire reconnaître les gens dont on parle. C'est l'atteinte à la vie privée, quoi.
Et donc, cela, c'est l'ultime tabou de notre société,
oui.
Au-delà de la représentation, de l'acte sexuel, etc. C'est faire en sorte de ne pas pouvoir reconnaître celui dont on parle.
Oui, celui dont on parle, avec lequel on a eu des relations... Vraiment des relations amoureuses et humaines, pas des relations de maître à esclave, ce qui est le propre du cinéma et des œuvres pornographiques, du commerce, des films ou de...
Alors on peut dire, Bernard Dufour, que vos œuvres et une partie de vos œuvres vont être exposées donc à partir de la fin de la semaine du côté de Strasbourg. Donc
à Strasbourg même, au
Musée d'Art Contemporain, 40 tableaux. Et donc vous avez annoncé que vous faisiez don de ce tableau, Holger Mainz, justement au Musée de Strasbourg. On verra ce qu'ils en feront donc dans une représentation ou non de ce tableau dans une salle du Musée d'Art Contemporain
de Strasbourg. C'est une expérience intéressante.
Et puis, on peut voir par là que vous êtes fidèle à cette devise que vous vous êtes donnée dans un de vos livres. Dès qu'une personne pense comme une autre et qu'elle s'unisse à une troisième, je suspecte cette pensée et la fuit. On voit bien que vous êtes un personnage singulier, on peut le dire, Bernard Dufour.
Eh ben, vous êtes un lecteur formidable, parce que les citations que vous avez faites de moi sont m'enchantent, vraiment.
Merci.
C'est vrai.
Merci beaucoup d'avoir accepté, Bernard Dufour, d'ouvrir cette semaine consacrée donc à l'histoire de la censure dans la Nouvelle Fabrique de l'Histoire. Je mentionne, parce qu'il faut tous les lire, vos livres, aussi bien chez Christian Bourgois, chez Plon, que chez Fata Morgana. Donc chez Christian Bourgois, c'est Le temps passe quand même, l'évocation de la mort de Martine et de la vie qui reprend après cette mort. Justement, Au Fur, dont c'est également chez Christian Bourgois, j'en ai cité des extraits. L'Oranger des Osages, c'est Carnet chez Plon. Et puis La Figure du Sexe de Cro-Magnon à moi, par Bernard Dufour. Avec vos dessins, c'est chez Fata Morgana.
Et un petit livre à la Musardine qui s'appelle Mes modèles, femmes nues à l'atelier.
Oui, la Musardine, qui d'ailleurs est un éditeur connu pour ses ouvrages érotiques, mais on ne doit pas dire érotique avec vous, c'est cela, Bernard Dufour.
On doit dire érotique pour ce qui est érotique. Moi, c'est pornographique et intime.
Merci beaucoup, Bernard Dufour.
Merci.
Vous venez d'entendre Bernard Dufour à propos de la censure dans un numéro de la Nouvelle Fabrique de l'Histoire proposé par Emmanuel Laurentin. Première diffusion le 3 avril 2006 sur France Culture, réalisation Anne Franchini. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.